fait un stage pour découvrir la musique. Mais je connais beaucoup la nature.
Vous voyez cette grande plaque?
Imaginez que ça représente toute l'énergie du soleil qui arrive sur Terre.
Oh là là, ça bronze.
Et vous voyez ça, la différence de taille? Ben ça, c'est l'énergie que l'on consomme sur toute la planète.
Je m'appelle Régine, je suis paysanne, je fais l'élevage des moutons à la ferme. Et la ferme est en agriculture biologique, ce qui fait que vous allez manger que des aliments bio.
Voilà, c'est bien, vas-y Joseph, passe, c'est bien Joseph, vas-y.
Oh, regardez là-bas, on voit la centrale nucléaire en bas là.
Un gros bloc là.
Non, là, tout au fond là, c'est.
Grosse maison.
Comme une grosse maison, ouais. Elle a failli exploser en.
Ah, bon
en 99. Ouais.
Après avoir été confronté à l'accident nucléaire en tant que Premier ministre, parce que j'ai ressenti le danger dans ma propre chair, j'ai diamétralement changé d'avis. Et je considère maintenant qu'il faut sortir du nucléaire au plus vite.
La centrale
nucléaire,
voilà, c'est un peu une bêtise pour l'homme.
Ouais. Mais t'as quel âge?
10 ans.
Parce que comprendre un enfant de 10 ans, il y a des adultes de 60 ans qui ne le comprennent pas. Mais il y a quelque chose qui est terrible pour des gens comme à Fukushima, c'est qu'ils ne pourront plus jamais sortir du nucléaire. Parce que c'est fini. La porte, elle est fermée. Clac!
C'est pire que la guerre. La guerre, on peut se sauver à côté, mais les radiations, on ne peut pas y échapper. À cette époque, on pouvait aller à la mer. Regarde, le ciel est magnifique. Ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est priver les générations futures de leur liberté de choisir pour eux-mêmes ce que seront leurs valeurs et leur mode de vie.
Voici les systèmes énergétiques d'aujourd'hui. Ceux du 20e siècle basés sur les énergies fossiles. Et là, ceux du 21e siècle basés sur le vent, le soleil, la biomasse et les énergies naturelles. L'énergie du vent est une priorité au Danemark. Nous pensons que 50% de notre énergie viendra de l'éolienne en 2020. C'est très bientôt.
Le fil rouge sur le bouton rouge et l'autre fil rouge sur le bouton noir. Voilà, inauguration de l'éolienne de Joseph et de Mortagne, la première. Là, on va cueillir le vent.
Je pense que l'énergie est très proche de la liberté. Les énergies privées et la liberté sont deux choses contradictoires. Rendez-nous l'énergie et nous serons plus libres.
Voilà, donc de retour dans le magazine, on vient d'entendre donc le trailer, comme on dit, donc du nouveau film de Jean-Paul Jaude qui est avec nous dans les studios. Jean-Paul Jaude, bonjour.
Bonjour. On peut parler de la chanson là qu'on
vient. Ouais, bien sûr, on peut parler de la chanson, bien sûr.
Parce que vous ne l'avez pas traduite et c'est très important.
Ah oui.
C'est une chanson qui a été créée par les enfants qui sont partis de Fukushima et quand ils sont revenus, ils ont créé cette chanson. C'est un collège à Fukushima à côté de Minamisoma. Et les paroles sont... il faut qu'on regarde tout, enfin, notre beau pays avec ce beau village bleu et avec ce ciel bleu. Mmh. Et ce qui est dit dans la chanson, c'est que le ciel bleu est le ralliement de tous les jeunes ou les petits, les jeunes de Fukushima qui sont dispersés dans tout le Japon, hein, qui sont réfugiés dans tout le Japon. Il y en a quelques-uns qui sont revenus, donc, comme je le dis, à Fukushima. Et c'est cette chanson dit « Regardez le ciel bleu ».
C'est pour tout le monde le même, quoi.
Tous ensemble au passé. Et ce ciel bleu, un jour, on le reverra peut-être à Fukushima. Mais je peux vous dire qu'ils ne sont pas prêts de le revoir. Il y a du ciel bleu, mais ils ne sont pas prêts de revenir tous.
Bon, on va revenir sur ce film aussi, Libre, donc, qui vient de sortir, en fait.
Il est sorti le 11 mars.
Qui est sorti le 11 mars.
Le 11 mars. On tenait à le sortir le 11 mars pour en mémoire des victimes de Fukushima. Parce qu'il y a des victimes à Fukushima.
Donc du coup, on va revenir sur ce livre-là, mais peut-être pour vous présenter, on peut parler de vos films qui sont sortis il y a déjà quelques années. Donc le premier film documentaire que vous avez réalisé...
Pour le cinéma.
Et c'était « Nos enfants nous accuseront ». On le disait hors antenne, on a commencé un peu la discussion hors antenne, mais « Nos enfants nous accuseront », un succès quand même. Oui. Oui. Le nombre d'entrées assez conséquent. Vous parliez de 300 000 entrées, oui, commerciales, mais un peu plus si on compte les projections. Oui. Gratuite et ou libre. Et donc, ça partait d'une expérience à Barjac, dans les Cévennes, si je ne me trompe pas.
C'est ça. Au pied des Cévennes.
Au pied des Cévennes, dans le Gard, oui. Et la cantine est passée du jour au lendemain en cantine bio.
Enfin, d'une année scolaire à l'autre.
D'une année scolaire à l'autre. En cantine bio.
Oui.
Et donc, vous avez pris un petit peu cet exemple pour parler de l'agriculture dite conventionnelle, mais en fait polluante.
Chimique. Même mortifère, on peut dire.
Mortifère. Pour parler aussi beaucoup des maladies, des cancers qui sont développés face à tous ces pesticides.
Chez les agriculteurs, chez les enfants d'agriculteurs.
On peut revenir un peu sur comment vous êtes venu à faire un documentaire à Barjac sur ce thème précisément.
Moi j'ai tout le temps fait des films sur l'environnement. Bon, c'était des films, ce qu'on appelait sur la nature. Mais il a fallu que, disons, que je passe à la vitesse supérieure à un certain moment. Moi, j'ai fait une école de cinéma à l'école de Lumière, mais j'ai eu une aventure à la télé, principalement Canal. Bon, ça, c'est autre chose, une belle aventure. Et il y a 11 ans, j'ai eu un cancer, un cancer du côlon. Et j'ai cherché, bien sûr, à savoir. On vous dit toujours, vous avez un cancer, mais c'est congénital, c'est normal. On a tous des cellules cancéreuses. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de donner à manger à ces cellules cancéreuses, suivant l'alimentation que l'on prend. Parce que cancer du côlon, soit... Et les causes, ça peut être l'obésité, j'ai jamais été obèse, ça peut être surpoids, j'ai jamais fait de surpoids, manque d'activité, j'ai tout en fait pratiqué beaucoup de sport, ou l'alimentation. Et à un moment, mon alimentation, j'ai pas fait très attention, voilà, j'allais beaucoup au restaurant, je mangeais pas tout le temps bio. Et à un moment, le corps a une mémoire, et à un moment, ça s'est réveillé, comme j'ai nourri des cellules, et bien sûr, j'ai été opéré, bon... Et quand vous êtes sur votre lit d'hôpital, vous dites d'abord, pourquoi j'ai eu ça, quoi. Alors, j'ai cherché à savoir, j'ai rencontré des médecins, des scientifiques. Enfin, j'ai beaucoup bouquiné pendant ma maladie. Et puis, j'en suis arrivé à l'alimentation. Et à ce moment-là, j'ai dit, les films que j'ai faits sur l'environnement étaient quelque part, en réalité, j'ai fait une série qui s'appelle « 4 saisons en France », notamment le premier de la série s'appelle « Les 4 saisons de Béberger » que j'ai tourné dans votre région Midi-Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée du Louron.
D'accord.
Voilà, au moment d'ailleurs où il y avait cette lutte contre la ligne à très haute tension qui devait partir de Golfech, la centrale nucléaire, pour aller en Espagne. Donc là, j'ai décidé de passer à une vitesse supérieure et de dire la vérité, de dire les choses, parce qu'on ne les dit pas. Toutes ces technologies nous sont imposées à force d'opacité et de mensonges. Beaucoup de mensonges et tout est bien caché. Et j'ai dit, je vais faire un film sur la malbouffe, sur l'empoisonnement, parce que nous on s'empoisonne, mais le plus terrible, c'est comment un humain peut empoisonner ses petits, en plus sciemment. Souvent ils savent que la nourriture vient d'une agriculture qui n'est pas respectueuse du vivant, et ils les empoisonnent. Donc j'ai fait un repérage, et puis j'ai choisi j'avais plusieurs écoles qui étaient des gens bio, mais je voulais une qui fasse la transition, comme vous l'avez dit, du jour au lendemain, d'une année scolaire sur l'autre. Et j'ai trouvé ce village, cette petite ville de Barjac, 1500 habitants, qui a décidé de faire passer la cantine en bio.
Et donc là, vous avez pris un peu prétexte de ce passage en bio pour essayer de filmer les réactions des uns et des autres, notamment des enfants, des parents,
oui.
des politiciens aussi. On voit le maire est assez présent aussi, puisque c'est de lui que vient la décision, visiblement. Et puis, vous allez à la rencontre aussi beaucoup des agriculteurs de la région, des familles d'agriculteurs, et puis aussi des personnes qui ont vu des proches disparaître à cause de cancer, notamment, je pense à ce témoignage qui est vraiment poignant d'une mère, d'une petite fille qui est morte d'une leucémie, quoi. Et donc, vous liez tout ça, en tout cas...
Elle n'est pas morte.
Elle n'est pas morte.
Mais elle a eu un cancer, effectivement. Ouais. Elle a frôlé, comme elle le dit, la maman l'a dit. J'ai vu la mort, hein, mais elle va bien maintenant. Elle a été guérie. Aux dernières nouvelles, ça allait. Elle était rentrée en une phase où elle était guérie. Mais il y a des témoignages de scientifiques aussi, de médecins.
Beaucoup de témoignages de médecins dans ce film.
De médecins, absolument, oui. Et alors, il y a une chose très importante. Pourquoi j'ai choisi une école primaire, d'ailleurs, c'est très important. Et pourquoi j'ai choisi principalement les élèves de CM1, CM2. Parce que ce sont des gamins qui ont entre 8 et 11 ans, on va dire. Et à cet âge-là, ils sont très réceptifs et ils comprennent tout. Ils pigent tout. Ils sont pas encore allés, ils n'ont pas encore basculé au collège, dans le secondaire. Et là, à partir de ce moment-là, ils n'ont plus cette naïveté et cette liberté d'esprit. Hein. On sait que le libre arbitre peut disparaître après l'enseignement secondaire. Donc ça, c'est très important. Et qu'est-ce que j'ai vérifié? En plus, au cours de cette année scolaire, que j'ai filmé, enfin, je n'ai pas filmé pendant toute l'année scolaire, mais pendant une période, pendant plusieurs... Environ, on a tourné 60 jours à Barjac. Qu'est-ce que j'ai pu constater? C'est que les enfants, si on leur donne une éducation, par exemple, la mairie a fait un potager bio dans la cour de l'école.
On le voit plusieurs fois à l'image.
Voilà. C'était un endroit incontournable pour les enfants. Les enseignants aussi se sont investis, ils les ont initiés. L'institutrice Marie-Pierre, le chef cuisinier aussi à la cantine, ils ont supprimé déjà tout de suite les plateaux individuels. Ils mangeaient à table avec un plat et on partageait. Le mot partage est important. Et partageaient la nourriture.
Pas chacun son assiette préservie.
Il y avait un partage.
Voilà, le plat.
Un partage, on le voit dans le film. Et alors, voilà, j'ai choisi cet enfant. Et donc, je me suis aperçu qu'au bout de deux mois, premier trimestre, après donc deux ou trois mois d'éducation, d'initiation au bio, on va dire. C'est-à-dire, bio, c'est quoi? Au respect du vivant, qu'il soit microbien, végétal en l'occurrence, et animal ou humain. Donc, c'est le respect du vivant. Et bien que les gamins conseillaient leurs parents. Et tous les soirs, ils faisaient un compte-rendu parce qu'ils étaient passionnés. Et ils initiaient leurs parents. Et il y a une séquence dans le film qui est très clair, très symptomatique. C'est vers la fin de l'année, dans la cour d'école, sous platane je crois que c'est un acacia. Il y a l'institutrice et le chef cuisinier qui ont réuni les enfants, une trentaine d'enfants. Et l'institutrice pose une question: quels sont ceux qui, au début de l'année, mangent bio? Il y en a deux qui lèvent le doigt. Et la deuxième question: qui sont ceux qui, à la fin de l'année, mangent bio? Et là, ils étaient plus d'une quinzaine à lever le doigt. Eh bien, ce sont les enfants qui ont initié leurs parents.
Qui ont poussé les parents.
Oui, oui, qui les ont pas poussés, ils les ont informés à leur tour. Et c'est pour ça que le film Libre, qui passe ce soir, eh bien, dans le film Libre, j'ai découvert une classe musique et nature en vacances, dans une ferme bio, où les enfants font un stage pour le piano et la guitare. Et là... Et c'est pour ça que j'ai choisi des enfants, cet âge-là, parce que les enfants ont cette même âge. C'était des enfants de CM1, CM2.
À peu près le même âge.
Voilà. Parce qu'ils ont vraiment un rôle très important. Même chose au Japon, on a choisi des enfants de cet âge-là, mais eux, ils n'étaient pas dans une ferme bio, parce que là-bas, il n'y a plus de bio au Japon. Tout est radioactif à Fukushima. Et puis, des enfants du même âge au Danemark. Voilà. Parce que ces enfants, encore une fois, comprennent tout. Et en plus, c'est quoi? C'est leur planète que l'on emprunte. Vous connaissez cette phrase, la planète ne nous appartient pas, on ne fait que l'emprunter à nos enfants. Donc, il faut les aider à choisir leur avenir. On peut les aider, mais jusqu'à maintenant, on leur a surtout imposé un avenir aux générations futures. Mais il faut qu'on les aide à choisir un avenir.
Alors, avant Libre et après Nos enfants nous accuseront, il y a eu quand même eu deux films qui sont assez forts également. Il y a eu Severn, La voix des enfants, de nos enfants,
oui.
Et Tous cobayes.
Oui.
Alors, peut-être en deux mots, on peut revenir un petit peu dessus, puis après, on va prendre le temps de parler de Libre.
En deux mots, ça va être difficile.
En deux mots, ça va être difficile. Mais Severn, en tout cas.
Oui, Severn. Alors, Severn, c'est un prénom d'une petite fille, Séverine en anglais, hein. C'est le mot Séverine en anglais, qui en 92, au sommet de la Terre de Rio, a fait un discours. On dit un discours, c'est pas un discours, c'est un appel au secours devant tous les disciples.
Il est formidable, cet appel.
C'est bouleversant. Et moi, quand j'ai découvert ce discours, j'ai été bouleversé et j'ai décidé de la retrouver. Et je l'ai retrouvée 19 ans après, et elle attendait son premier enfant. Ça, c'était très important.
Super coïncidence, quoi.
Voilà.
Ça en était même
elle allait
pas une.
Donner la vie à un enfant en se questionnant. C'est ça, le film aussi. Elle se questionne, est-ce que je peux mettre au monde un enfant aujourd'hui? Quelle responsabilité. Et en même temps, on a fait le point dans ce film avec elle sur la situation de la planète 20 ans après. Et on a présenté le film à Rio plus 20, hein, qui a eu lieu maintenant, ça va faire 5 ans. On l'a présenté ensemble. Et encore une fois, j'ai donné la parole à une enfant. Et quel enfant, quoi. C'est quelqu'un aujourd'hui qui milite, qui fait partie de l'association de son papa, qui est David Suzuki, qui est un grand environnementaliste nord-américain, bon, d'origine japonaise, comme son nom le dit. Ouais. Voilà, et Severn, le deuxième mot pour Tous cobayes, c'est au départ, c'était un film sur une expérience sur les OGM, avec le professeur Seralini, une expérience que tout le monde a entendu parler, a vu des images de Serra avec des tumeurs monstrueuses. Sur le NK603, le OGM NK603, et sur le Roundup, sur ce fameux Roundup qui vient d'être retoqué par l'OMS,
c'est ça, ouais.
L'Office mondial de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, où ils annoncent clairement que ce pesticide est cancérogène. Voilà. Et en cours de tournage de cette expérience...
Tous cobayes, quoi.
Oui, bah oui. Ça. Et en cours de tournage, il y a eu le 11 mars 2011, la catastrophe de Fukushima. Et pour moi, c'était un signe terrible, c'est-à-dire que tout le temps, j'ai pensé que ces deux technologies étaient identiques. Elles nous ont été imposées de façon absolument antidémocratique, elles sont irréversibles et elles sont immaîtrisables. Entre autres, aucune compagnie d'assurance ne veut assurer ni les OGM, ni les risques des OGM, ni les risques du nucléaire au monde, aucune compagnie, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Et puis surtout, elles hypothèquent l'avenir des générations futures, ces deux technologies.
Puisqu'on ne sait pas ce que ça va devenir.
On ne sait pas. Si, on sait.
Enfin, on sait.
On sait, en l'occurrence, avec l'expérience de Seralini, on sait que les OGM et le Roundup, enfin le pesticide qui vont avec, génèrent des cancers, des tumeurs. Ça, on le sait.
Alors revenons-en peut-être à Libre, la première partie de Libre, c'est une colonie de vacances, comme vous l'expliquez.
Un stage, oui, c'est un petit stage avec une quinzaine d'enfants. Oui.
Un stage sur la musique et sur le nucléaire, en fait.
Non, c'est la transition énergétique.
C'est la transition énergétique.
Voilà, c'est un stage musique dans une ferme bio. Donc ouais, c'est un stage, ce qu'ils appellent musique et nature. C'est ce que dit la petite Léa au début. Elle a dit, je fais un stage, un stage sur la musique et sur la nature.
Bon. D'accord.
Mais, et là, la thématique était cette année-là sur la transition énergétique. Or, transition énergétique, bien sûr, c'est quitter les énergies fossiles qui, depuis le 19e siècle, nous aliènent. Et elle est possible que si on quitte aussi ce nucléaire qui, on l'a évoqué tout à l'heure, et hypothèque l'avenir des générations futures, pour preuve, Tchernobyl, Fukushima. En plus, on sait qu'aujourd'hui, la presse l'a révélé, ce qui est extraordinaire déjà, c'est une catastrophe écologique, mais la presse, de par les états des lieux, entre autres d'Areva, avec des pertes colossales, des milliards sur Areva, montre que c'est aussi une catastrophe économique. Donc, ce sont des énergies du XXe siècle, et est-ce qu'on peut aller vers les énergies du 21e, c'est-à-dire les énergies renouvelables? Parce qu'en plus, par rapport à ces énergies fossiles, charbon, elles ne sont pas centralisées, elles ne sont pas aux mains de dictateurs, c'est ce qu'on appelle le bien commun. Le soleil, le vent, l'eau, tout le monde peut quelque part la capter et puis les utiliser pour avoir d'une énergie renouvelable et beaucoup moins chère.
Du coup, dans Libre, on part de ce stage,
oui.
En France, donc au bord de la Gironde.
Oui.
Donc on voit un environnement qui est très beau, qui est très sain.
Magnifique. C'était mon pays natal.
Ah, d'accord.
Et donc, c'est pour ça que
on sent l'amour du pays, en tout cas, dans
oui,
le film.
Oui, puis non, j'étais touché parce que quand j'ai découvert ce stage, j'ai fait un flashback.
Ouais.
Sur mon enfance.
Ouais.
Ouais, j'ai une très belle enfance là-bas parce que j'ai passé beaucoup de temps. Moi, c'est sur le bord de l'Atlantique, hein, dans les vagues, dans les dunes, dans les forêts de pins. Puis j'allais souvent à la ferme de mon grand-père. C'est là où j'ai appris le respect du vivant. C'était un paysan. Et ils m'ont appris le respect du vivant. Et j'ai fait un flashback. Et j'ai dit, mais il y a quelques décennies, c'était moi. C'était moi. Et,
sans la centrale nucléaire à l'horizon.
Voilà. Mais quand moi, je n'avais pas de centrale nucléaire.
Voilà.
Or, eux, il faut dire que dans ce petit village, enfin dans cette ferme bio, à 20 km au sud, il y a la centrale nucléaire du Blayais.
Du Blayais.
Qui, en 99, a failli exploser à la suite de la tempête Martin, hein, qui a dévasté une grande partie de la France. Et elle a failli exploser à tel point que la centrale du Blayais, elle est en Gironde. Hein, sur la rive droite de la Gironde, il y a au sud, entre Bordeaux et un peu plus loin que le Blayais, c'est la Gironde. Et au-dessus, c'est la Charente-Maritime, donc mon département natal. Eh bien, le préfet de la Gironde, dont dépend cette centrale du Blayais, qui en réalité est à Brault-Saint-Louis, un petit village, appelait M. Juppé en pleine nuit.
Qui était
maire de Bordeaux.
Maire de Bordeaux.
Maire de Bordeaux. Okay. Et qui, il lui a dit, M. Juppé, il va peut-être falloir évacuer Bordeaux.
Voilà. Et donc là, le parallèle est directement fait avec Fukushima, où vous êtes rendu, donc du coup, en 2011. Et puis vous vous êtes rendu à nouveau là-bas, 3 ans après la catastrophe, donc pour le film Libre. Oui. Et là, vous vous rendez dans les zones sinistrées et à la rencontre aussi des habitants qui ont été sinistrés.
Des quelques habitants qui sont revenus.
Qui sont revenus vivre, en fait, sur la zone sinistrée.
Oui, alors, qui sont venus sur la zone sinistrée. Et parce qu'il y a... il faut savoir une chose... C'est que, en ce qui concerne la radioactivité, la dose admissible de radioactivité par an pour un individu, c'est 1 millisievert. Or, à Fukushima, la radioactivité était tellement importante, ils ont multiplié par 20 le taux admissible, ce qui est absolument scandaleux.
Donc, dans les textes de loi, ils ont multiplié par 20. Ils ont dit, en fait, la quantité admissible, c'est
plus 1, mais c'est 20.
D'accord.
Donc à partir de là, ce qui fait que les gens ont pu retourner, parce que comme c'est multiplié par 20, regardez, vous pouvez venir.
C'est à 18, là, c'est bien.
Voilà. Donc, et d'ailleurs, dans le film Libre, on fait le radiamètre, hein, on voit des images du radiamètre, donc c'est l'appareil qui est chargé à relever la radioactivité. On s'aperçoit que où ils habitent, ça peut être des zones qui sont 12 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois supérieures à ce qu'elles sont autorisées en France et dans le monde
aussi.
Parce que c'est une mesure, 1 millisievert, c'est pour le monde entier.
D'accord.
Voilà, donc je suis retourné filmer les quelques habitants et les enfants aussi qui sont là.
Les enfants, ouais. Et là, c'est touchant, hein, de voir les anciennes écoles sinistrées, le temps qui s'est arrêté. Là, on avait une horloge en panne dans les studios de Canal Sud et ça vous a marqué parce que c'est vrai que c'est l'horloge de cette école-là, oui, qu'on voit dans le film, s'était arrêtée, oui, le jour, à l'heure, à la minute de la catastrophe du 11 mars.
Non, alors elle s'est arrêtée quand le tsunami est arrivé, parce que le rez-de-chaussée de l'école que l'on voit a été traversé par la vague.
D'accord.
Et donc tout s'est arrêté, tout est délabré, et les pendules sont toutes arrêtées à 16h40.
C'est une belle métaphore, vie s'est arrêtée, quoi, vraiment.
Bien sûr.
Quoi.
Et en plus, la centrale a explosé quelques temps après. Et donc cette école est complètement vide, et elle est radioactive.
Alors du coup, là, on voit beaucoup la vie des gens à Fukushima, et on voit aussi le premier ministre japonais qui était en exercice. Je ne sais pas s'il est toujours en exercice.
Non, Monsieur Naoto Kan.
Vu son discours, c'est pas étonnant qu'il y soit plus. Ouais. Mais en tout cas, le premier ministre qui était en exercice à l'époque, qui livre un témoignage assez saisissant. Pour un dirigeant comme ça, il est très tranché sur l'avenir, en tout cas son avis sur le nucléaire, qui est très tranché, et qui dit avoir vécu des moments très durs en tant que Premier ministre. Quoi.
Bien sûr.
On peut revenir sur cette rencontre peut-être un petit peu.
Oui, ce Premier ministre est en pleine rédemption, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il a vécu cette catastrophe et il a compris qu'une catastrophe nucléaire, c'était immaîtrisable. On lui a fait le reproche d'ailleurs, c'est pour ça qu'un an après, ils ont perdu les législatives, il a été sanctionné parce qu'on l'a accusé de ne pas avoir, géré la catastrophe. Mais c'est ingérable. C'est ingérable parce que la radioactivité, elle part dans tous les sens, c'est suivant le vent, et puis on ne maîtrise pas la catastrophe nucléaire. Et Fukushima, ce n'est pas terminé, hein, il faut savoir. Mmh. Il faut savoir aussi une chose, que les Français comprennent bien qu'il n'y a plus aucun réacteur en activité au Japon. Malgré tout ce qu'on peut dire et écrire, il n'y a aucun réacteur en activité parce que les Japonais n'en veulent plus. Donc ce Premier ministre a été sanctionné et il a quelque part recouvré la raison et il parcourt la planète en conseillant surtout aux responsables surtout de ne pas rentrer dans le nucléaire et de quitter le nucléaire urgemment. Voilà.
Aujourd'hui, la centrale, elle est toujours refroidie. Comment
oui,
on peut en parler deux secondes
sûr,
peut-être.
Ouais. On voit dans le film, il explique il y a dans le film l'animateur Jean.
Ouais. L'animateur du stage
qui
en
est génial.
France. Ouais.
Et Jean explique ceci aux enfants la radioactivité.
Ah, il le fait très bien, très pédagogique.
Ouais, ouais. C'est très pédagogique. Et je ne sais plus pourquoi je parle de Jean.
Mais le refroidissement de Fukushima. Ouais.
Oui, voilà. Ouais. Jean explique très bien ce que c'est que le réacteur, le cœur du réacteur, et après on prend ce cœur et on le fait refroidir dans des piscines. Mmh. Or, ces piscines à Fukushima, elles ont été endommagées, tremblement de terre surtout. Donc, elles sont en équilibre instable. Et donc, le système de refroidissement est très archaïque. On le refroidit d'une façon vraiment archaïque. Tous les jours, il y a plus de 1000 tonnes d'eau qui sont utilisées pour les refroidir. Sur les 1000 tonnes, paraît-il qu'ils en nettoient, après désintoxiquent 600 tonnes, mais 300 tonnes sont déversées dans le Pacifique avec une eau hautement radioactive. Voilà, tous les jours. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on parle de de liberté. La porte de la liberté là-bas est fermée. Les petits Japonais de Fukushima ne peuvent plus aller, même les Japonais, parce qu'il y avait des spots de surf, notamment sur le Pacifique. C'est terminé. Plus personne ne va faire du surf, plus personne ne va se baigner, et il n'y a personne sur les plages.
Mais il ne faut pas s'inquiéter, parce que les courants marins, ils s'arrêtent aux frontières, comme les nuages
bien sûr,
radioactifs.
Bien sûr, c'est ce qu'ont pu constater déjà nos amis du Canada, entre autres. Moi, je suis en rapport avec le Canada, avec la petite Severn.
Avec Severn aussi, oui.
Des containers radioactifs sont arrivés là-bas, et puis les poissons, quoi, les requins, du thon, ils sont arrivés, tout arrive maintenant sur la côte pacifique nord-américaine.
D'accord. Alors, on a parlé des deux premiers lieux, la Gironde, Fukushima.
Oui.
Troisième lieu, le Danemark. Alors là, c'est pas le lieu d'une catastrophe, au contraire, c'est le lieu d'une transition énergétique que vous avez voulu filmer pour peut-être donner de l'espoir aussi.
Bien sûr, surtout dans tous mes films, il y a un constat, hein, c'est le devoir d'un cinéaste environnementaliste de dire la vérité. Donc il y a ce constat. Bon,
qui sont parfois durs, les constats.
La vérité, il faut être dur à dire, mais c'est un devoir. On ne peut pas la cacher à nos enfants. C'est à nous de leur expliquer. Et il y a des solutions. Et là, j'ai tenu à aller dans l'île de Samsø. Cette île au milieu du Danemark. Hein, que le Danemark a, depuis 30 ans, refusé le nucléaire. Là, c'est un pays démocratique, puisqu'ils ont demandé à la population s'ils voulaient le nucléaire. Et il y a 30 ans, ils ont dit non.
Et ils ont appliqué ça.
Voilà. Et donc, ils ont développé le renouvelable. Mmh. Et aujourd'hui, cette île est exemplaire. Hein. Dans le monde, elle est connue. Et voilà, donc on s'aperçoit que les enfants là-bas peuvent se baigner comme ils veulent. Hein. Il y a même un super festival de musique de Samsø.
Qu'on voit à la fin du film.
Avec des décibels, hein, la lumière crache, hein, maximum.
Tout est solaire.
Tout le monde
s'éclate.
Éolien,
tout est renouvelable.
C'est essentiellement renouvelable. Mmh. Voilà, 100% renouvelable. Donc... ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça marche. Ça marche, et surtout, et ce qui était important, j'ai pas choisi tout le Danemark, hein, j'ai pas voulu parler de toute l'énergie du Danemark, parce que pour l'instant, ils sont pas complètement renouvelables, loin de là. Mais parce que, montrer que la solution, demain, c'est le local. Que ce soit pour l'agriculture et pour l'énergie, il faut consommer local. Et que ça marche. C'est-à-dire que, exemple, là-bas, donc, c'est un pays aussi, une île agricole. Ils ne sont pas bio, par contre. Hein, là, il faudra qu'ils progressent.
D'accord.
Mais
ils ont encore des pistes à creuser.
Les agriculteurs, par contre, utilisent l'énergie bio. Quand un agriculteur installe une éolienne ou plusieurs agriculteurs dans leur champ, ils s'engagent à ce qu'il y a des associations S'ils veulent installer une éolienne, s'ils en installent une, il faut qu'ils autorisent une coopérative à installer une éolienne.
Voilà. Donc ça fait deux éoliennes, quoi.
Voilà, ça fait deux éoliennes.
D'accord.
Bon, en tout, il y en a une douzaine sur l'île. Et puis, bien sûr, il y a le solaire et puis la biomasse.
Et qui suffisent largement donc à la consommation de l'île.
Oui, alors qui suffisent largement puisqu'ils sont excédentaires et ils revendent au réseau national. Mais le souci aujourd'hui, maintenant, faut parler clairement de tout, le souci du renouvelable, c'est qu'on a du mal à le stocker.
C'est ça qui est important.
Et Yajan, encore l'animateur, au début, premier travaux pratiques sur la nature et sur l'initiation au renouvelable, il arrive avec une grande plaque de plastique. Il dit, regardez, ça, c'est ce que l'énergie que le soleil nous donne à la planète pendant un an. Et en réalité, il sort une petite pièce de monnaie. Il dit, regardez, ça, c'est ce dont la Terre a besoin pendant un an.
C'est ce qu'on consomme.
Ce qu'on consomme, la terre, les habitants, les terriens.
Et alors consomment. Là, on voit l'échelle qui est complètement démesurée. Ben oui. Quoi.
Et ça veut dire quoi? On peut le traduire autrement. C'est-à-dire que si on était capable de stocker une journée de soleil sur la planète, une journée, cette énergie nous donnerait l'énergie dont les terriens ont besoin pendant un an.
Si on arrivait à capter toute l'énergie solaire.
Oui, à la capter. Voilà, le problème est là, donc on évoque SAMSE. À chaque fois qu'il y a d'énergie, il y a un excédent, bien sûr, que ce soit solaire ou éolien. Mais où est le scandale? C'est qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas investi dans la recherche depuis 50 ans, depuis entre autres en France cette énergie nucléaire nous est imposée. Tout le budget recherche va au nucléaire. Donc si depuis 50 ans, on avait investi sur la recherche pour le stockage de l'énergie, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Alors donc, je reviens à SAMSE. C'est-à-dire qu'eux, bien sûr, on la stocke si personne, à titre individuel, des gens peuvent stocker sur quelques batteries chez eux. Bon, on peut stocker. Alors donc, mais il arrive des fois qu'il n'y ait pas de soleil
ou qu'il n'y ait pas de vent.
Et alors là, il y a le réseau national. Et là, le réseau national revend à son tour de l'énergie issue, entre autres, malheureusement d'énergie fossile, comme ça peut être le charbon ou le pétrole. Voilà. Mais en réalité, SAMSE est quasiment à 80% éclairé avec le renouvelable, mais surtout, c'est que cette énergie revient beaucoup moins chère aux habitants et même leur fait gagner de l'argent. C'est ce qu'on traîne à nous, parce que nous, l'EDF est en train de montrer ses prix en permanence, et parce que c'est une énergie qui revient très très chère.
Donc voilà, donc tout ça, c'est dans le film Libre.
Presque tout.
Presque tout. Heureusement que tout n'est pas dedans, sinon on n'en parlerait pas.
Tout ce que j'ai évoqué, tout n'y est pas. Là.
Voilà.
Bon, on n'a pas. Voilà.
Mais du coup, le film Libre, en tout cas, il est en projection donc ce soir au cinéma Le Moulin à Roc-sur-Garonne. Vous y serez aussi?
Bien sûr.
Vous faites souvent des rencontres comme ça?
Oui.
Ouais.
Depuis, c'est très important. La présence, surtout pour ces films environnementaux, environnementalistes.
Pouvoir en discuter après, je pense que c'est important pour les gens qui voient
souvent,
le film.
Parce que souvent, les gens qui viennent, bon, sont des gens, la majorité, qui ont pris conscience de la situation, mais ils me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire?
Conscient, mais démuni, quoi.
Ben oui, parce qu'on n'informe pas vraiment les gens. Tout à l'heure, je vous disais que c'était les enfants qui éduquaient leurs parents. Et la presse aussi nous cache la vérité. Par exemple, dans les débats, encore hier soir, j'étais à Toulouse, au cinéma ABC. Les gens me disaient, ah, mais les Japonais ont remis des réacteurs en route. Non, il y a zéro réacteur en activité au Japon. Et la presse française véhicule des mensonges qui viennent du Japon. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau Premier ministre, celui qui a remplacé M. Naoto Kan, qui est un malade du nucléaire. Lui, il veut tout remettre en route. Or, les Japonais n'en veulent plus. Et aujourd'hui, il y a zéro réacteur nucléaire au Japon. Voilà. Voilà.
Donc, il faut qu'ils tiennent le bon bout.
Exactement. Donc, je ne sais plus où on en est. Oui, le débat.
On parlait des rencontres.
Ouais. Pourquoi le débat? Donc, les gens ne savent pas, ils ne sont pas informés. Et alors, souvent, ils me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre le nucléaire? Eh bien, je leur dis, arrêtez de leur donner votre argent à ceux qui construisent des réacteurs nucléaires. Quels sont ceux qui construisent? C'est EDF. EDF, Areva, c'est la même chose. Qui construit? Mais si vous arrêtez de leur donner votre argent, comment ils vont faire? Ils n'auront plus les moyens. Ah oui, mais comment on fait? Eh bien, il faut savoir qu'on peut acheter de l'énergie renouvelable, 100% renouvelable, à une coopérative qui s'appelle Enercoop, énergie coopérative. Voilà. Donc les débats, ça sert aussi à ça, à informer le public. Et puis aussi, ce que j'aime bien dans les débats, c'est donner la parole au public. Parce que les gens n'osent plus se parler, les gens n'osent plus prendre la parole. Et pourquoi ils n'osent plus prendre la parole? Parce qu'on est au siècle de la communication, ça c'est certain, mais elle est surtout virtuelle. Elle est surtout virtuelle. Et les gens ne font pas de dialogue, ils monologuent sur leur iPhone ou sur Internet, mais il n'y a plus de dialogue, comme on le fait nous là. On a une vraie communication physique. Voilà. Et dans les débats au cinéma, c'est important. Après le film, les gens ont partagé d'abord. Là encore, au cinéma, le cinéma, il y a le partage. À la télé, il n'y a pas de partage. Mais là, il y a un vrai partage avec 100, 200, 300 personnes.
Qui sont dans la même salle et qui peuvent en discuter
et
à la
partagent,
sortie.
Mais déjà, le fait de s'asseoir dans la même salle, on partage la vision.
Le même écran.
Le même écran. Et on ressent les mêmes choses. Et à la fin, on peut échanger. On peut partager les avis. Chacun donne son avis. Et ça, c'est très important.
Alors ben voilà, ce soir, 20h, cinéma Le Moulin, projection du film Libre, Libre au pluriel avec un point d'exclamation, et puis rencontre avec Jean-Paul Jaude pour en discuter un petit peu plus. À la radio, on n'a pas tout le temps qu'on pourrait avoir, mais du coup, ce soir, vous l'aurez peut-être.
C'est déjà pas mal.
Voilà, c'est déjà bien d'avoir une bonne demi-heure, c'est trois quarts d'heure. Et puis donc du coup, pour faire place aux thèmes qui vous sont chers, à savoir l'enfance et la musique aussi, et ben on va écouter la... quasiment la toute dernière chanson de votre film Libre, qui est une chanson reprise des Cowboys Fringants qui s'appelle Plus Rien, et c'est une jeune fille qui
du
la
stage,
chante.
Une jeune petite fille du stage, ouais. qui se l'est appropriée, qui a une interprétation très forte, très personnelle. Et je voudrais dire, et des Cowboys Fringants, je voudrais les remercier, ce sont nos cousins québécois, les Québécois, ce sont des rockers, des costauds, moi je les appelle les bûcherons rockers, mais ce sont des mecs géniaux, des écolos, et qui ont fait une fondation, qui ont créé une fondation écologique. Et quand on utilise la musique comme ça, il y a des droits à payer, des droits. Donc on a appelé la fondation pour demander, d'abord, avoir l'autorisation, il faut qu'ils nous autorisent
à
diffuser leurs chansons, et deux, les droits, après, les droits. Et ils ont dit, donc ils ont reçu le scénario du film, puis on leur a envoyé aussi quelques images. Ils nous ont dit, bah, pour vous, ça sera gratos. Voilà, donc je voudrais les remercier, les Cowboys Fringants.
Voilà, donc, et la jeune fille qui la chante,
c'est Lintea, elle s'appelle Lintea.
Voilà, et ben on écoute tout de suite Lintea.
Décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qui tombaient encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin de l'été apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Mais moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Plus rien. Que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient omnubilés par des bouts de papier que l'on appelle argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Et ces nouveaux dieux ne reculaient devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Mais au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces gens-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Et les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond d'intelligence que vous m'avez donné n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.